East West, la story.
Je vous raconte l'histoire du chanteur jamaïcain qui a fait connaître le mouvement Rastafari et la musique jamaïcaine aux quatre coins de notre planète. Bob Marley disparu à 36 ans, le 11 mai 1981, des suites d'un cancer. Il ne cesse d'inspirer les artistes. Ses chansons ont marqué, et marquent toujours d'ailleurs, les générations, à travers des messages d'amour, de tolérance. Il reste le symbole de la lutte contre l'oppression, de l'appel à l'amour universel, l'émancipation, la liberté. Et ce soir, voici son histoire. Bienvenue dans la story de Bob Marley.
East West, la story.
Robert Ernest Marley, plus tard Bob Marley, naît le 6 février 1945 sur l'île de la Jamaïque, dans la région montagneuse de Sainte-Anne, au pied de la colline de Nine Mile et dans la ferme familiale, celle de son grand-père. Alors ici, on cultive la pomme de terre, on cultive le cacao, la banane. Sa mère a à peine 18 ans quand elle tombe enceinte d'un Jamaïcain blanc d'origine anglaise et de 40 ans son aîné, souvent en voyage. Le jeune Bob Marley passe son enfance aux côtés de sa mère et de ses grands-parents, à la campagne, loin de la civilisation. Et bercé par la musique. À 12 ans, avec sa mère, Bob Marley quitte la campagne pour la capitale de la Jamaïque, Kingston, et s'installe dans le ghetto de Trenchtown. La vie quotidienne n'est pas si simple. La nourriture se fait rare, mais la musique remonte le moral. À 14 ans, il arrête l'école et retrouve un ami d'enfance, Bunny Weller, qu'il connaît de Nine Mile, et rencontre Peter Tosh. C'est avec eux qu'ils découvrent le reggae et le ska. Et il y a un chanteur qui vit aussi à Trenchtown, c'est Joe Higgs, qui leur donne des cours de chant et qui, par la suite, influencera beaucoup Bob Marley. Lors d'une interview pour l'émission Chorus en 78, donnée par le journaliste Patrice Blanc-Francard à Paris, Bob Marley raconte cette rencontre avec Joe Higgs.
On était un petit groupe à être ensemble. Et un jour, on est tombé sur un professionnel qui nous a aidés. Il s'appelait Joe Higgs. C'est lui qui nous a fait répéter, qui nous a amélioré. Et c'est grâce à lui qu'on a pu enregistrer notre tout premier disque en 1963. Not this dreadlock in a Babylon. Not this dread. A dreadlock on the bongo.
La musique et le foot, deux passions du jeune Bob Marley, plus que l'école donc, et plus que son métier de soudeur. Il veut absolument percer dans la musique. En 1962, il a à peine 17 ans, il enregistre son premier titre, Judge Not, pour le producteur Leslie Kong du label Beverly's. Titre considéré comme révolutionnaire, dans lequel il chante, je cite, « N'essaie pas de me mépriser. Qui es-tu pour me juger, pour critiquer la vie que je mène? Avant de me juger, regarde-toi en face. » Sans trop de succès, Robert Marley, ou plutôt Bob Marley, veut continuer à s'investir dans la musique. Alors, imaginez-vous, on est dans les années 60. Les platines font tourner les vinyles de groupes comme Frankie Lymon and the Teenager. Les vinyles de The Impressions. Say it's alright. It's alright. It's alright. Have a good time. Cause it's alright. Whoa, it's alright. Ou encore The Drifters. They say the neon lights are bright on Broadway. On Broadway. They say there's always. Bob Marley veut lui aussi monter son groupe, et il le fait. Au départ, ils se font appeler les Juveniles, puis les Gémisseurs, The Wellers, avec ses amis Junior Braithwaite, Peter Tosh et Bunny Weller. Et le fameux Joe Higgs s'occupe du groupe, le fait répéter encore et encore. The Wellers obtiennent un contrat avec Studio One en 1964. Le titre Simmer Down est un succès, il devient numéro 1 en Jamaïque. Des succès de Bob Marley, je vous propose d'en écouter tout au long de sa story ce soir sur It West. Voici Jamin dans un instant et j'accueille également mon invité qui a eu la chance de jouer lors d'un match amical face à Bob Marley juste avant l'un de ses concerts. Jamming too. And the rules ain't no vow. We can do it anyhow. I and I.
in Mount Zion and rules all creation. Yeah, we're charming.
Écoutez la story de Bob Marley, c'était Jamin, sorti en 1977.
East West, la story.
Revenons au milieu des années 1960, en Jamaïque, où est né Bob Marley, où sa carrière démarre à cette époque. Après son intégration au sein de la Fédération des Antilles-Britanniques, la Jamaïque proclame son indépendance le 6 août 1962 lors d'une cérémonie à Kingston et en présence de la princesse Margaret et du nouveau premier ministre jamaïcain Sir Alexander Bustamante.
A new nation is born. The island of Jamaica, for 307 years a British possession, welcomes Princess Margaret and the Earl of Snowdon here to represent Queen Elizabeth at independence ceremonies.
Et côté musique, on écoute du ska ou le rocksteady, issu du ska mais plus lent et qui marque vraiment un cap dans l'évolution de la musique jamaïcaine. Le ska arrive après l'indépendance de la Jamaïque, avec un son rythmé, la guitare qui marque un contretemps, puis les claviers, parfois les cuivres qu'on entend et on en parlait dans le premier succès de Bob Marley and the Wailers, Simmer Down. L'un des principaux producteurs de musique, jamaïcain, il est né à Kingston, n'est autre que Sir Coxon. Fin des années 50, il se lance dans la production d'artistes locaux. Il pense que le marché de la musique jamaïcaine a un grand potentiel. Il crée sa structure Studio One et il fait partie des précurseurs qui inventent successivement le ska en 1962, puis le rocksteady en 1966. Sir Coxon s'inspire des studios soul américains, on pense à la Motown, et il est à son apogée quand le reggae arrive en 1968. Bob Marley le considère comme un père, il habite même dans les locaux de Studio One pendant plus d'un an. L'amour, la religion sont abordés dans les chansons, qui s'adressent à la jeunesse, à la vie difficile. Les chanteurs essaient de leur redonner espoir à travers leurs paroles, leur musique. Émerge en Jamaïque dans les années 30 et passionne ensuite Bob Marley, le mouvement Rastafari. Alors au départ, le reggae est plutôt méprisé par les producteurs de l'île, mais la Jamaïque, nouvellement indépendante, est en quête d'identité culturelle. Et c'est via le reggae que l'industrie musicale jamaïcaine commence à diffuser le message rastafarien. Bob Marley se sent accepté par ce mouvement social, culturel et spirituel. Et à cette période, il compose certains de ses futurs succès, Stir It Up, qu'on écoutera dans un instant, ou Trench Town Walk. Les débuts dans la musique sont difficiles pour Bob Marley. Ses premières chansons n'atteignent pas le succès souhaité. Et à la fin des années 60, il retrouve sa mère, partie vivre aux États-Unis, et il travaille comme ouvrier dans une usine automobile la nuit. Ce qui lui inspire d'ailleurs les paroles d'It's Alright en 70. Il faut donc attendre le début des années 70. Un film policier jamaïcain sort sur les écrans en 1973. « The Harder They Come, réalisé par Perry Enzell et produit par un certain Chris Blackwell, fan de reggae. L'histoire d'un criminel jamaïcain interprété par Jimmy Cliff, avec une bande originale considérée comme une percée pour le reggae aux États-Unis. Bob Marley et son groupe The Wailers débarquent en Angleterre à cette période et où vit le producteur Chris Blackwell, une grande histoire commence. Chris engage Bob Marley sur son label et participe à l'expansion internationale du reggae. L'album Catch a Fire sort en Angleterre en 72 et Bob Marley et The Wailers partent en tournée dans le pays à la rencontre du public anglais. Voici un extrait de Catch a Fire, Stir It Up sur It West.
Oh,
1972, grâce à la story de Bob Marley ce soir. C'était Stir It Up avec bien sûr The Wailers, extrait de l'album Catch a Fire.
It was la story.
Bob Marley n'a jamais vraiment parlé de son enfance, de ses premières années. On sait, je vous en parlais dans le début de cette story, qu'il est né sans l'éducation de son père blanc, absent, c'est une blessure, et d'une maman noire avec qui il vit dès sa naissance à Nine Miles en Jamaïque. L'adolescent métis n'aime pas l'école qu'il quitte à 14 ans. Il affronte les regards méchants, déplacés, comme dans les rues. Il souffre de son métissage, mais il en fait une force en se battant plus tard pour les défavorisés et contre le racisme à travers la musique qui le passionne. Deuxième passion, le football. Quand Bob Marley joue au foot, il se sent bien. Il a du talent. C'est un fan du footballeur international argentin Ossie Ardiles qui remporte la Coupe du Monde en 1978 avec l'Argentine. Bob Marley, c'est un fan du football sud-américain en général. Il organise même sa tournée de l'époque pour ne rater aucun match, quitte à décaler ses interviews. En 1980, il est en pleine tournée européenne pour l'album Uprising. Et avant son seul concert dans l'ouest de la France, à Nantes, avec son groupe The Wailers, Bob Marley se rend au centre d'entraînement du FC Nantes. Et il improvise un match avec un joueur emblématique du club qui évolue au poste de milieu de terrain, Gilles Rampillon, et quatre autres joueurs nantais. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Aujourd'hui, c'est devenu plus qu'une anecdote, ce match avec Bob Marley.
Bah oui, l'importance de ce match prend de l'ampleur d'année en année parce que c'est un souvenir inoubliable et un match quand même extraordinaire au sens littéral du terme. Il était réellement passionné de football. Partout où il allait, je crois qu'il essayait de jouer au football, de rencontrer l'équipe locale. Je pense qu'il avait émis le souhait de rencontrer l'équipe du FC Nantes quand il viendra à Nantes. Et le match, à mon avis, avait quand même été programmé par le manager du groupe. Il faut dire que ça s'inscrit dans le cadre d'une tournée européenne de très haut niveau, puisqu'ils ont commencé à Zurich en mai pour terminer en Angleterre avant des concerts aux États-Unis. C'est évidemment prendre l'importance parce que c'est sa dernière grande tournée européenne. Et au milieu des Zurich, Munich, Copenhague, il y a Nantes, le 2 juillet 80. Et puis ce match si particulier, match amical, mais un match sérieux, engagé, parce qu'on avait dû s'employer pour venir à bout de cette équipe jamaïcaine composée de Bob Marley et de quatre autres joueurs de son groupe. Donc on avait gagné au bout de 45 minutes 4-3.
On essaie d'imaginer Gilles Rampillon, on est en 1980, vous vous entraînez avec votre club, le FC Nantes, et là, vous voyez débarquer Bob Marley et tout son staff qui vous propose un match amical. Comment vous sentiez-vous ?
On se dit que c'est quand même un moment assez incroyable. C'est lui qui a souhaité nous rencontrer. On a pensé qu'il voulait un peu se dégourdir les jambes avant son concert le soir, pour s'aérer, mais ce n'était pas du tout le cas. C'était un match engagé.
Il était très sérieux sur le terrain.
Mais c'est ça, où il a voulu gagner le match. Alors évidemment, c'est au bout de quelques minutes... On s'est dit, oh là là, mais il faut pas que les champions de France se fassent humilier, même si c'est Bob Marley en face. Donc on s'est mis à jouer sérieusement. Et les souvenirs, pour être franc, sont à la fois flous, mais bon, je me souviens par contre très bien du terrain d'entraînement, qui est le centre d'entraînement de la Jaunelière, donc sur un terrain, mini-terrain, mini-but, mais... maxi match, parce que il avait une certaine technique, et moi ce que j'aime à répéter, c'est que l'honneur pour nous de le recevoir, mais je pense que s'il en était besoin, ça témoigne de l'universalité du football, et en même temps il avait une très haute idée du football, il l'a déclaré parfois aux journalistes, parce que il disait que le football l'inspirait, que ça lui donnait de la liberté, de la créativité, et bon, ça correspondait tout à fait à ce que nous développions naturellement avec l'entraînement lors de l'exercice du jeu à la nantaise. Voilà.
Oh, Gérard Pillon, j'ai retrouvé la fameuse photo noir et blanc prise en 1980. On vous voit jouer au foot avec Bob Marley. Il y avait peu de journalistes.
Il y avait très peu de photographes. Un journaliste m'a dit, mais vous imaginez si ça se produisait maintenant, il va à Paris Saint-Germain, il va à l'OM, il fait un match amical, ça serait... une médiatisation maximale. Et puis là, c'était un match en toute simplicité. Quelques photographes, un ou deux, je crois. Pas d'image.
Il n'y a aucune vidéo.
Qui rend le match encore plus mythique.
Mais
parce qu'on s'imagine, il y a peu d'images. Cette photo, alors je suis devant lui pour la conquête du ballon. Je me souviens plus de la suite de l'action, quoi. Est-ce que c'est Bob Marley qui file au but? Est-ce que c'est Gilles Rampillon qui arrive à lui subtiliser le ballon? Oui, il y a une forme de simplicité. Puis je crois quand même, tout simplement, de ce que j'aime bien mettre en avant, c'est du plaisir de jouer. Voilà.
Il a inscrit un doublé, il paraît?
Oui, doublé de Bob Marley. Alors, c'est là aussi où moi j'aurais aimé voir les actions. Comment on a pu le laisser marquer? On ne s'est pas rendu compte en réalité de la dimension
de ce match. Oui.
Sur le moment, hein, sur le moment. Maintenant je m'en rends compte. Bon, ça prouve aussi qu'il avait une réelle passion très simple pour le football. Hein.
Gilles Rampillon, vous avez joué au foot avec Bob Marley à Nantes en 1980. Qui aurait pu imaginer son décès un an après, en 81?
Il termine cette tournée européenne, il enchaîne avec plusieurs concerts, il termine cette tournée à New York au Madison Square Garden, puis Pittsburgh, et tout s'arrête là. Sur le plan musical, on est le 2 juillet, et son dernier concert, c'est à Pittsburgh le 23 septembre 80. Au summum de sa gloire, et après, donc... Non, mais moi je suis heureux de lui rendre hommage de façon très humble parce que bon, c'était un monument, mais c'est pour dire aussi que le football rapproche et que nous a rapproché le temps de la conquête d'un ballon au moins. Mais on s'est rencontrés quand même pendant 45 minutes. Ça reste un souvenir inoubliable pour moi. J'ai découvert une chanson que je réécoute presque en boucle ces jours-ci, c'est Three Little Birds, qui me fascine et que ça me plaît assez bien et puis qui dénote tout le talent de Bob Marley musical. Three Little Birds.
Grâce à vous, on retourne en 1977. Voici Three Little Birds de Bob Marley. Merci Gilles Rampillon.
Merci.
Singing, don't worry about a thing.
Animal Burns de Bob Marley, sorti en 1977. Et on parlait juste avant de la passion de Bob Marley pour le football avec le Nantais Gilles Rampillon, qui a joué avec Bob Marley en 80 pendant un entraînement du FC Nantes. Et bien plus récemment, il y a un autre club qui adore Bob Marley. C'est l'Ajax Amsterdam, qui a fait du titre qu'on vient d'écouter, Three Little Birds, son hymne depuis 2008, où il est repris à chaque mi-temps par les supporters. Kimani Marley, fils de Bob Marley, s'est même rendu à la Johan Cruyff Arena en hommage à ses supporters.
East West, la story.
Bob Marley, c'est un grand amoureux. Et ça s'entend dès ses premières compositions avec les Wailers. Ce sont des chansons d'amour, de déception aussi. Bob Marley a eu 10 enfants de 7 mères différentes. Il paraît qu'on ne compte pas ceux que l'héritage Marley a refusé de prendre en compte. Il devient parent de Stephen Marley avec sa femme Rita, avec qui il s'est marié en 66. Puis de Juan Marley, fils d'une autre amie de son quartier Trenchtown, Janet Green. Puis Karen Marley avec une autre Janet à Londres. Julian Marley en 1974 avec une groupie, Tina. Et d'ailleurs, à propos de la paternité de Bob Marley, il avoue à son amie et avocate Diane Jobson que si l'enfant parle du coin de sa bouche, c'est bien le sien. Bob Marley tombe ensuite amoureux d'une actrice jamaïcaine de 29 ans, Esther Anderson, que connaissent très bien le producteur Chris Blackwell et Marlon Brando. C'est elle qui inspire Ben Downlow et une partie de la célèbre chanson No Woman No Cry. Le titre sort en 1974 sur l'album Native Red. C'est une chanson qui prône l'égalité, qui touche les femmes des ghettos du monde entier. Bob Marley s'inspire du quartier où il a grandi, Trenchtown, dans lequel l'ambiance est difficile avec les mafias, les violences faites aux femmes. Bob Marley en est témoin. Femme, ne pleure pas. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Regardez bien chez vous. Vous avez peut-être l'album, le vinyle du single No Woman, No Cry. Et vous verrez que la chanson est créditée sous le nom de Vincent Ford. Il y a plusieurs histoires. Bob Marley aurait écrit la chanson ou la mélodie. Et là, à cette époque, il est en pleine procédure en ce qui concerne son contrat avec Danny Sim, son manager de l'époque. Il préfère créditer son ami d'enfance, Vincent Ford. C'est le patron d'une baraque à soupe de Trenchtown. Bob Marley lui offre donc les droits d'auteur. Et sur ses conseils, son ami transforme son restaurant en centre d'accueil pour les jeunes. Il les nourrit et les pousse à jouer de la musique. Ce resto sera un havre de paix jusqu'à la mort de Vincent Ford en 2008.
No woman, no cry. Boom, boom, boom. No woman, no cry. I'm telling you now. No woman, no cry. Boom, boom, boom. No woman, no cry.
Plusieurs artistes reprennent depuis sa sortie ce titre culte de Bob Marley. Et des jeunes talents d'aujourd'hui, on entend beaucoup de covers sur les réseaux sociaux notamment. Et puis, un grand coup de cœur, la reprise de No Woman No Cry par la grande prêtresse de la soul, Nina Simone, sur la réédition de son album Single Woman. La version la plus connue de son auteur, No Woman No Cry, Bob Marley, c'est sans doute celle qu'il dévoile sur l'album Live l'été 1975 et que je vous propose d'écouter maintenant dans sa story sur It West.
Thank you. Yeah.
No Woman No Cry de Bob Marley, extrait de l'album Live, sorti en août 1975.
East West, la story.
Après l'album Naked Red, sur lequel est gravé No Woman No Cry, on découvre Rastaman Vibration en 1976. Alors là, Bob Marley devient définitivement une star mondiale, le plus grand porte-parole du reggae. C'est aussi le dernier album jamaïcain de l'artiste avant de s'expatrier à Londres et de dévoiler des albums internationaux, entre guillemets. En fait, c'est peu après la sortie du disque que Bob Marley survit à une tentative d'assassinat chez lui, à Kingston, en décembre 76. C'est pendant la campagne électorale, les politiciens de tous les horizons politiques espèrent un soutien du chanteur. Sept hommes armés font irruption dans la maison de Bob Marley. Il est touché dans la poitrine et le bras, sa femme Rita reçoit une balle dans la tête, dans sa voiture, dans l'allée de la maison. Son manager et un employé du groupe sont aussi touchés, mais tout le monde reste en vie. Bob Marley décide de s'installer à Londres. Il y a d'ailleurs un titre qui parle de cette période sur l'album Survival. Suite à son exil d'un an à Londres avec ses musiciens, Bob Marley sort l'album Exodus en 77, album considéré pour certains comme le meilleur du 20e siècle, comme pour le Time Magazine. Un disque porté par jamming. Jamming, c'est une expression jamaïcaine qui peut désigner une réunion de famille, d'amis, la jam session, ou alors, pour certains, ça peut être une communion autour de la ganja. Il y a aussi Three Little Birds, qu'on a écouté dans cette story, ou Waiting in Vain, voici Bob Marley. Thank you. Extrait de l'album Exodus de Bob Marley, sorti en 1977, c'était Waiting in Vain.
It West, la story.
À la fin des années 70, après la sortie de cet album, Bob Marley part en tournée en Europe. La France le découvre à Paris, au Pavillon, et à cette occasion, Antenne 2 diffuse un reportage à la télé.
Oh, la musique, c'est toute la musique.
Mais c'est plus.
C'est sur l'unité du monde. Sur les gens qui se réunissent et qui vivent comme un seul. Des idées de paix? Oh, pas vraiment, plutôt la réalité de la paix.
Une tournée américaine est aussi prévue fin des années 70, mais elle est finalement annulée à la suite de la découverte du cancer de Bob Marley lié à une blessure à un orteil. Au départ, il ne s'inquiète pas, pensant à une blessure due au foot, sauf qu'elle ne guérit pas. Alors il consulte un médecin, il lui donne le diagnostic. Bob Marley a un mélanome malin, un cancer de la peau. On lui prescrit une amputation urgente de l'orteil. La religion Rastafari interdit toute amputation, et puis la tournée européenne qui suit retarde l'opération. Bob Marley continue ses concerts, comme en France, au Bourget avec plus de 50 000 personnes, c'est un record à l'époque, ou encore à Nantes début juillet 80. Il joue un dernier concert, enregistré à Pittsburgh le 23 septembre 1980. Bob Marley part ensuite pour une clinique de Bavière où il suit un traitement. Le cancer se généralise. Il souhaite finir ses jours chez lui, en Jamaïque, mais il est trop faible pour faire le voyage en avion jusqu'à Kingston. Il décède à Miami le 11 mai 1981, à 36 ans. Celui qui a popularisé le reggae dans le monde entier reste un monument musical, le pape ultime du reggae. Et dans les mains de ses descendants, il est aussi devenu une icône marketing. Beaucoup ont déjà porté ou vu un t-shirt, un sweat, un porte-clés, des feuilles à rouler, des centaines de produits dérivés à l'effigie de Bob Marley. Et ce soir, c'était un plaisir de réécouter quelques-uns de ses succès à vos côtés via les ondes de la radio et donc cette story que je vous propose de terminer avec One Love. Mais juste avant, une citation de Bob Marley. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à sa richesse, mais à son intégrité et à sa capacité à affecter positivement les gens autour de lui.
Sinners who has hurt on mankind, just to save his own belief.
One love.
What about a one arm?
One heart.
What about a
little? Let's get together and feel alright.
As it was in the beginning,
one love.
So shall it be in the end.
One heart.
Alright.
Give thanks and praise to the Lord,
and I will. Fight this holy Armageddon.
One love.
So when the man come, there will be no no doom.
One
song. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Saying
one love.
What about the one
heart?
La story à retrouver en podcast sur itwest.com et sur l'appli itwest.